Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission quotidienne Info Club Sandwich. Dans le cadre de cette émission, je vous propose de faire un petit tour du côté de l'Université de Picardie Jules Verne, qui organise tout un cycle de conférences au cours de l'année 2021 autour de la langue française et de la francophonie. Ce cycle qui a commencé en avril se terminera le 2 décembre prochain, proposant au total 8 conférences. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de l'une d'entre elles, le français dans tous ses états, ou comment le petit prince a su apprivoiser les langues, animée par Paula Prescott. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc enseignante-chercheuse, maître de conférence en sciences du langage et linguistique à l'UPJV. Et vous animez aujourd'hui à 18h15 sur Zoom une conférence dans laquelle vous parlez notamment des multiples traductions dont a fait l'objet l'ouvrage Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il y a plus de 430 traductions du Petit Prince à ce jour, c'est ça ?
Exactement. Et lors de cette conférence que vous allez avoir la possibilité de suivre dans quelques instants, je donnerai un palmarès des éditions, si vous voulez, pas seulement les traductions elles-mêmes, mais les éditions dans lesquelles on peut trouver Le Petit Prince. Et en haut de ce palmarès, on peut mentionner les 1010 éditions en mandarin. Hein, donc en mandarin, donc il faudrait bien sûr penser au fait que une traduction par un collègue peut avoir été éditée plusieurs fois, et c'est le cas. La toute première traduction en mandarin est sortie en 1979. Elle a été traduite par Sheng Zhuzheng et Lian Yu. Et dans la même année même, 1979, Shen Jingfeng a aussi proposé une deuxième traduction du Petit Prince en mandarin. Et donc, il y a énormément d'autres langues qui proposent des éditions multiples. On peut trouver 717 éditions en espagnol, dont la première est sortie en 1954. On a également d'autres éditions en coréen à partir de l'année 1971. En 2020, par exemple, en coréen, on trouvait déjà 4 nouvelles traductions. Et ce qu'il faut savoir par rapport à l'édition du Petit Prince, c'est le point fort de cette conférence, c'est que déjà à sa sortie, à sa publication, Le Petit Prince se prête à un rayonnement international, puisque l'édition, la toute première édition, est en langue anglaise. Hein? L'édition en langue française est publiée 3 ans plus tard. Elle était censée sortir en 1945. Elle est sortie en 1946 chez Gallimard. Mais la toute première édition est sortie aux États-Unis en 1943 par une édition, par une maison d'édition, Reynolds and Hitchcock à New York. Il faut aussi se rappeler que Antoine de Saint-Exupéry est hospitalisé à New York à cette période. En tout cas, il est en exil aux États-Unis depuis 1945 pour des raisons de santé. Donc, à partir de cet instant-là, on peut vraiment dire que Le Petit Prince se destine déjà à un rayonnement culturel international.
Puisqu'en fait, Antoine de Saint-Exupéry est français, mais il a vécu aux États-Unis, c'est ça ?
Exactement.
Et du coup, il a écrit son ouvrage en premier en anglais.
Il a écrit en français, mais la traduction a été proposée la même année par Catherine Woods. Et c'est notre entrée dans Le Petit Prince en réalité, The Little Prince. Donc aux États-Unis, ils l'ont connu avant nous, en France, et cette traduction en langue anglaise était complétée par tous les dessins originaux de Saint-Exupéry également. Et donc, c'est à partir de là, les toutes premières traductions dans les années 40 ont commencé à se multiplier. Hein. Donc, le palmarès que je donnerai indiquerait qu'on trouve plusieurs langues allant vraiment de A à Z, sans sauter quelques lettres qu'il soit. Donc, la toute première édition de traduction de Catherine Woods, 43, a quand même... était sur le devant de la scène jusqu'en 1995, quand une deuxième traduction avait été proposée par Irène Testo Ferry. D'autres traductions en langue anglaise ont suivi, mais on voit comment ces traductions se sont prêtées à des péripéties. Hein, il y a quand même une anecdote qui indique qu'on peut savoir si quelqu'un s'est servi de la traduction en langue anglaise pour traduire en d'autres langues ou si la personne a vraiment fait une traduction à partir de l'œuvre originelle. Et une chose, par exemple, très simple, le petit prince vit sur une planète à peine plus grande que lui, lui qui avait besoin d'un ami. C'est le texte original. Mais dans la traduction de Catherine Woods, c'est marqué « lui qui avait besoin d'un mouton ». Et voilà. Et donc, les personnes qui se sont appuyées sur cette traduction en langue anglaise ont commis l'erreur. Hein. Donc, c'est une des multi-péripéties de la traduction du Petit Prince.
Et donc, aujourd'hui, l'ouvrage est présent dans 175 États différents. Qu'est-ce qu'on explique, du coup, cet engouement, justement, par rapport à cette œuvre-là du Petit Prince, selon vous ?
Oui. Alors, là, pour préparer cette conférence... Je me suis dit que ce serait, parce que moi je connais la raison pour laquelle je suis attirée vers ce roman. C'est une des premières œuvres que j'ai découvertes en langue française. Elle est simple, elle est pleine de messages universalistes. Et donc je me suis tournée vers un certain nombre de traducteurs en langue créole, dans les différentes créoles, et j'en parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez. Un des premiers thèmes, il me semble, qui donne envie aux personnes, aussi bien de traduire que de lire cette œuvre, c'est le thème de l'universalisme. Et ce thème de l'universalisme, hein, le Petit Prince est souvent décrit comme un conte universel. Et cette idée, c'est que partout où on se trouve, et c'est un psychologue social israélien qui fait cette analyse, pas pour le Petit Prince, mais pour la thématique de l'universalisme. L'universalisme serait vraiment une des valeurs fondamentales, plébiscitées comme telle par des individus partout dans le monde, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur culture. Et d'après Schwartz, l'universalisme va s'exprimer autour de certains objectifs comme la compréhension, l'estime, la tolérance, la protection du bien-être de tous et de la nature. Et cette valeur donne envie également de survivre et de faire survivre d'autres individus et d'autres groupes avec qui on est proche. Mais il y a également un engouement qui peut être mis sur le plan de la réussite commerciale. Cette réussite commerciale, hein, le Petit Prince a tout un tas d'objets publicitaires qui sont générés avec l'œuvre lui-même. Mais par exemple, aux États-Unis, les traductions du Petit Prince dépassent les 10 millions d'exemplaires vendus, hein, avec une traduction de La Nuit de Eric Wiesel. On compte vraiment 10 millions d'exemplaires et ceci montre qu'on est peut-être sûrement dans une recherche pour des valeurs universelles, mais aussi pour céder à quelque chose qui semblerait nous réunir dans le fonctionnement de la mondialisation. Hein. Et justement, ça peut être l'aspect assez... ironique du Petit Prince. D'un côté, on a une œuvre qui se prête à une traduction dans une langue native d'héritage un petit peu partout dans le monde, mais en même temps, il y a un aspect qui rejoint la rentabilité commerciale. À mon avis, le Petit Prince dépasse cela. Parce qu'un des grands défis que nous avons aujourd'hui à relever est le fait que partout où on va, on nous propose les mêmes produits, les mêmes pratiques et on voit plus ou moins les mêmes peuples. Mais dans Le Petit Prince, on peut voir ce travail de différenciation, de diversité culturelle qui est vraiment sur le devant de la scène par sa poésie, hein, par la poésie, par la philosophie, par le symbolisme. Le Petit Prince rencontre un certain nombre de personnages plus ou moins fréquentables. Hein. Il y a le buveur, il y a le roi qui règne sur rien du tout et personne. Il y a également le businessman, l'allumeur de réverbères, l'aiguilleur, le marchand de pilules qui perfectionne le sommeil ou la soif. Et donc, derrière tous ces personnages, chacun de nous peut se reconnaître, je pense. Où nous pouvons reconnaître quelqu'un qui est dessiné derrière ces personnages. Et chacun de ces personnages vit également sur une planète seule, comme le Petit Prince sur sa petite planète, à peine plus grande qu'une maison, d'après l'auteur. Mais ce qui est intéressant et ce qui peut-être nous permet de dire qu'on va vraiment au-delà de la rentabilité commerciale, c'est le fait que chacun de ces individus cherche un ami, comme le Petit Prince cherche un ami. Et c'est une des choses sur lesquelles je ne vais peut-être pas insister là-dessus, mais le fait que l'auteur lui-même, Antoine de Saint-Exupéry, est en lien fort d'amitié à Léon Werth, à qui il dédie le texte. Et c'est dans la préface de cette œuvre, il dédie ce texte à Léon Werth en terminant, si je le trouve, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Il continue, et toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Mais peu d'entre eux s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace qui était à Léon Werth en disant à Léon Werth quand il était petit garçon. Donc on a vraiment quelque chose qui permet à chacun de se reconnaître. Nous, les grandes personnes, avons quelque chose en commun. Nous avons tous été petits, un enfant à un moment ou un autre.
Il me semble qu'il y a quelque chose aussi dans l'aspect, la quête de sens aussi du Petit Prince, que ce soit au travers de tous les personnages que lui rencontre et lui-même en fait. Il est dans une quête de sens de sa propre vie, de son existence et de son errance d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui est très universel, ça dans lequel chaque peuple peut se retrouver ?
Tout à fait. Et presque sans porter de jugement de valeur. Hein, n'est-ce pas? Bon, ce sont nous qui lisons dans Le Petit Prince un certain nombre de messages, mais il n'y a pas de jugement de valeur qui nous est donné d'office. Et c'est vraiment à chaque individu de juger la qualité de l'expression de soi que l'on voudrait, bien sûr, prendre pour soi-même ou laisser de côté.
Et donc vous animez une conférence pour la Frescode sur les traductions, les diverses traductions dont a fait l'objet Le Petit Prince dans le cadre d'un cycle de conférences à l'université Picardie-Jules Verne, donc ce soir à 18h, à partir de 18h15 en visioconférence. Vous insistez notamment dans cette conférence sur les langues régionales, les créoles, toutes les langues dominées en fait, dans lesquelles ont été traduits cet ouvrage du Petit Prince. Pourquoi, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt justement pour ces langues-là? Et pourquoi se sont-elles emparées aussi de cette œuvre-là?
Ouais. Bon, ça remonte un petit peu plus loin. Disons que je suis de formation didacticienne et mes premiers pas dans l'enseignement étaient dans l'enseignement du français à un public non natif. S'il s'agissait d'anglophones, collégiens anglophones à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Et Apprendre le français m'a fait comprendre que j'étais en train de, parfois, hein, j'étais jeune professeur, parfois passer par une langue que j'imaginais être celle de leur existence, c'est-à-dire l'anglais standard. Et ça m'a énormément fait réfléchir et je suis arrivée au point où je me suis dit, mais la langue première de mes élèves n'est pas forcément la langue anglaise, mais le créole de l'île. Un créole qui est très proche de l'anglais selon le lect, selon la variété que l'on parle. Et c'est à partir de là que je me suis intéressée au créole, pour revenir bien sûr à optimiser l'enseignement de la langue. Mais il se trouve que je suis allée un petit peu plus loin que l'aspect didactique et j'ai fait une thèse sur le créole de Saint-Vincent. J'ai doté ce créole d'une grammaire, hein, d'une grammaire et d'une orthographe. Et depuis, j'utilise cette orthographe pour mes exemples, pour mes énoncés. Une association de traduction du Nouveau Testament se sert également de cette orthographe. Et il y a quelque temps, je me suis intéressée à ce phénomène qu'est le Petit Prince et j'ai voulu utiliser le Petit Prince comme une passerelle entre la langue locale, le créole vincentien, à la langue anglaise, puisque la traduction que je propose est une traduction bilingue. À la page de gauche, on trouvera le créole, à la page de droite, on trouvera l'anglais. Vous me demanderez, mais pourquoi l'anglais ? Mais tout simplement parce que on va utiliser ce texte dans les écoles primaires, écoles où on n'enseigne pas encore le français de façon fréquente. Mais je me suis servi tout de même de la langue française pour ma traduction. Je m'appuie sur l'œuvre originale de Saint-Exupéry. Et je me suis également rendu compte que c'est en proposant une traduction en créole que l'on donne à un élève, un apprenant, qui pense que sa langue n'est pas valorisée, qu'il n'a jamais vu sa langue imprimée. Ça donne une valeur ajoutée. Bon, c'est une valeur ajoutée. J'imagine que c'est une valeur ajoutée. Parce qu'une des premières choses que l'on doit savoir dans l'enseignement d'une langue nouvelle, c'est que la langue de l'individu n'est jamais loin. Okay? La langue de l'individu, on ne ferme pas une porte pour faire passer une autre langue. Hein? On a tout un répertoire langagier. Ce répertoire est plus ou moins plurilingue et il est inconcevable d'imaginer que l'individu va fermer les vannes de sa première langue pour passer à une autre langue. J'appelle ça le translinguisme. Hein, on navigue à l'intérieur de son répertoire. Et plusieurs autres auteurs, traducteurs de cette œuvre, on fait part de la même, des mêmes objectifs. Hein, et lors de cette conférence, j'insisterai sur, par exemple, les traductions offertes en langue haïtienne, hein, le créole haïtien. Cette traduction a été proposée par Franz Gourdet. Et Franz Gourdet me dit qu'il souhaitait enrichir la bibliothèque en créole pour permettre à ses locuteurs d'y trouver tous les supports pédagogiques nécessaires tout au long de son cursus scolaire, l'école primaire jusqu'à l'université. Même constat chez ma camarade, collègue Tamande de Lisser, qui a traduit Le Petit Prince en patois jamaïcain, qui me dit également qu'elle voulait aussi offrir tout un stock de matériel dans cette langue, le patois jamaïcain, pour montrer que le patois n'est pas uniquement une langue réservée à l'oral. Je parlerai également d'une traduction qui est en langue Singlish. Singlish, c'est la langue locale de Singapour, qui est un mélange des langues locales malaisiennes, par exemple, et l'anglais. Et Guy Lissui m'informe également que sa première motivation était d'avoir il a une passion pour ce conte, mais il a une certaine réticence contre laquelle il voulait se battre, hein, puisque cette réticence de la part des autorités locales qui considèrent que cette langue, le singlish, ne fait pas partie de l'écologie linguistique, mais on sait bien que tout le monde, presque, parle cette langue. Pareil pour le pidgin d'Hawaï, dont je vais également parler. Mon collègue Keao Newsmith, qui me dit, même à Paris, j'ai un groupe d'individus qui apprennent aussi ce pidgin d'Hawaï, qui est menacé, mais Keao me dit que beaucoup de jeunes hawaïens sont en train d'évoluer vers une langue plus internationale, l'anglais du continent américain. Donc il a voulu traduire Le Petit Prince en pidgin d'Hawaï pour permettre aussi de garder quelque chose auquel les individus sont très attachés culturellement, linguistiquement, mais surtout culturellement. Et pour ma part, ma traduction a été proposée dans le même sens. Il y a la passion pour la langue française, pour le Petit Prince, mais également je souhaite contribuer à la valorisation du créole, à la valorisation de ses locuteurs par la traduction d'un classique, d'une œuvre classique en langue française. Et je pense que ça passe par cela. Et comme le volume va être bilingue, je pense, et le ministère de l'Éducation qui me soutient d'un point de vue logistique dans ce projet, l'idée c'est que ça aide l'enfant, l'apprenant, l'écolier, de passer, ça aide les écoliers à passer d'une langue, le créole, à l'anglais, la seule langue officielle et langue dans laquelle la réussite est mesurée dans ce pays.
Ça permet aussi peut-être de limiter d'une certaine façon les inégalités sociales, puisque j'imagine que certains enfants ont plus accès à la langue anglaise dès le départ du fait de leur capital culturel et social par rapport à d'autres enfants qui viennent d'un milieu plus rural éventuellement.
Effectivement, mais comme on est vraiment sur des petites échelles, c'est un pays où on ne compte que 380 km² et plus que des moyens techniques et technologiques sont très développés aussi à Saint-Vincent. Tout le monde entend le créole, tout le monde entend l'anglais. Ce qui fait la différence, et quand j'ai fait ma thèse il y a presque 20 ans, je me suis rendu compte que le créole était beaucoup plus vital que ne l'est l'anglais. Et il suffit d'écouter les autorités locaux, les autorités locales, les ministres, le premier ministre qui sait quand il faut parler en créole, qui l'utilise à bon escient, mais c'est ça la différence. Il y a des personnes peut-être comme moi qui sont bilingues, créole et anglais, il y en a d'autres qui n'ont que le créole comme moyen d'expression, pas parce qu'ils ne veulent pas avoir un bilinguisme, mais parce que, comme vous dites, il y a des inégalités sociales ou peut-être aucune motivation d'aller au-delà de cette frontière tracée par les frontières de l'île. Donc effectivement, il peut y avoir ces disparités sociales, éducatives également, mais il n'y a pas de domaine maintenant réservé au créole ou des domaines réservés uniquement à l'anglais. Puisqu'on a le droit de naviguer et avec Internet, avec la radio locale a commencé à proposer des émissions en langue locale parce que c'était l'époque en 95-96, l'époque où on permettait aux auditeurs de téléphoner directement à la radio et de donner leur avis. Et là, on ne peut pas contrôler la langue dans laquelle on s'exprime. Okay? Avant cette période-là, on n'avait pas du tout la possibilité d'entendre le créole à la radio ou à la télé. Maintenant, on l'entend. Et donc, oui, je dirais que la langue est loin d'être morte. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes vincentiens et les jeunes dans beaucoup d'autres pays aussi, hein, Hawaï, Haïti, Jamaïque, Suriname, parce que je parle également de la traduction en langue stranane, qui est un créole à base anglaise et néerlandaise, c'est de leur permettre de passer d'une langue à l'autre, de leur donner envie de construire un répertoire linguistique pluriel et de savoir quand il faut utiliser quelle langue, pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on a vraiment envie.
Ben, merci beaucoup, Paula Prescott.
Merci à vous aussi, Jeanne.
Vous êtes donc linguiste, enseignante chercheuse, maître de conférences en sciences du langage et linguistique à l'UPJV. Votre traduction du Petit Prince en créole vincentien va donc paraître cette année à Kingstown, donc la capitale de Saint-Vincent et les Grenadines. On attend ça avec impatience, ça sera ensuite diffusé dans les écoles, c'est l'objectif. Vous animez aujourd'hui à 18h15 sur Zoom une conférence également dans laquelle vous parlez des multiples traductions dont a fait l'objet cet ouvrage de Saint-Exupéry, en vous focalisant notamment sur les traductions dans les langues créoles et dominées. Donc la conférence est en visio sur la plateforme Zoom. L'identifiant de connexion est à retrouver sur la page dédiée au cycle de conférences La langue française dans tous ses états sur le site de l'Université de Picardie-Jules Verne. Je mettrai le lien dans le podcast de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain 12h et 18h pour la dernière émission de la semaine. À demain.